L'esprit critique. Mediapart.
On termine cette émission avec un ouvrage plus théorique intitulé « Le troisième continent ou la littérature du réel » publié aux éditions du Seuil. Il est signé de l'historien Yvan Jablonka, auteur de plusieurs best-sellers, notamment « Laetitia ou la fin des hommes » qui avait obtenu le prix Médicis en refaisant l'enquête sur l'assassinat de cet adolescent dans l'ouest de la France, ou « Goldman » paru à la rentrée dernière et consacré au célèbre chanteur. Yvan Jablonka prolonge ici une réflexion initiée notamment dans un ouvrage publié voilà 10 ans, titré « L'histoire est une littérature contemporaine », où il défendait l'idée de concilier sciences sociales et création littéraire, et donc, je le cite, « tenter d'écrire de manière plus libre, plus originale, plus juste, plus réflexive, non pour relâcher la scientificité de la recherche, mais au contraire pour la renforcer ». Alors on va peut-être pas s'étendre d'emblée sur la forme de ce livre, hein, dont la dénomination est quelque peu usurpée, dans la mesure où il s'agit en réalité d'un recueil d'articles publiés précédemment par Yvan Jablonka, ce qui en rend la lecture extrêmement répétitive. Mais que diriez-vous de ce troisième continent que veut explorer Yvan Jablonka, Blandine Rinkel? Est-ce que c'est une grande découverte ou une grande déconvenue, pour reprendre le livre, le titre d'un livre récent de l'historien Romain Bertrand?
Moi j'aimerais quand même revenir sur la forme, parce que j'ai eu l'impression d'être bernée. Parce que je pensais, j'ai ouvert ce livre en pensant vraiment qu'il s'agissait d'un livre théorique, d'un essai sur ce troisième continent. Et ça m'intéressait beaucoup en réalité. Parce que ça fait, je sais pas, une dizaine d'années que je lis beaucoup de non-fiction, littérature du réel. Je pense que dans ce podcast, je pense qu'on apprécie ce genre, dont on a mis beaucoup de livres au programme qui participaient de ce genre-là. Donc ça m'intéressait, je me disais, tiens, en effet, comment c'est né, quelles questions ça pose, voilà. Donc je l'ai ouvert et je l'ai commencé en pensant que c'était ça, parce que rien sur la couverture, donc où il est marqué le troisième continent ou la littérature du réel, qui ressemble vraiment à une couverture d'essai assez exigeante, assez...
Dans une bonne collection Traverse, qui a peut-être l'inconvénient d'être dirigée par Yvan Jablonka, qui publie du coup dans sa propre collection.
Ah, je ne savais pas.
Ce qui fait que peut-être le travail d'édition n'a pas été fait comme on aurait pu l'aimer.
Mais en fait, c'est vrai que je m'attendais à un livre conduit avec méthodologie. Et c'est un mot qui revient beaucoup sous la plume d'Yvan Jablonka dans ses livres, l'importance de la méthodologie. Et j'ai mis un certain temps, en fait, à comprendre qu'il s'agissait d'un agrégat d'articles déjà parus, de postface de ces livres, donc parus dans des revues diverses, donc feuilletons dont on parlait, la NRF, Télérama. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre parce que ce n'est indiqué nulle part. C'est-à-dire que les noms des parties paraissent être des noms de chapitres. On a vraiment l'impression qu'on entre dans une réflexion
articulée.
Il y a
une phrase à la fin de l'introduction qui laisse suggérer, quoi, voilà.
Ouais, alors après, quand je l'ai repris à nouveau... non pas que je l'ai lu plusieurs fois, mais quand j'ai repris l'introduction, en effet, c'est marqué « Ce recueil propose », mais « Ce recueil propose une nouvelle cartographie des écritures », ça paraît quand même très, très ambitieux. Et en fait, à la fin, il cite toutes les
références.
Il y a la liste des sources. Voilà, il y a la liste des sources. Et il dit d'ailleurs « Pardon pour les redites, s'il y en a, j'ai essayé de les retirer, mais certaines, si elles étaient retirées, nuiraient à la cohérence interne des articles ». Mais bon, avant qu'on le comprenne, moi j'ai quand même été peinée par toutes ces redites, parce que parfois, c'est pas juste des redites thématiques, c'est les mêmes phrases, exactement les mêmes phrases qui reviennent. Donc c'est assez étonnant quand on s'attend pas, à ça.
Alors moi je voudrais ajouter une chose, parce que je suis complètement d'accord. Du coup j'étais déçue par cet effet de titre qui fait de la com, comme ça a été le cas par exemple pour ce livre qui vient de paraître d'auto-entretien de Kaoutar Archi et Joseph Andras, qui s'appelle de manière grandiloquente « Littérature et révolution ». Et en fait, ça laisse attendre un essai à deux mains, et en fait c'est un auto-entretien. Et là c'est pareil.
Un auto-entretien, oui, ils s'entretiennent l'un l'autre et à la
de leur œuvre respective. Et là c'est pareil. Alors on commence à avoir l'habitude en politique de grandes déclarations qui masquent une absence complète d'action ou un contenu tout à fait différent. Mais on aimerait bien... On lance un appel aux éditeurs de maisons sérieuses qu'ils ne prennent pas le même pli, quoi. On ne s'attend pas à ça de leur part. Enfin. Et puis,
ça a marché, on l'a programmé avant de l'avoir lu,
voilà.
Parce que le titre nous a séduit.
Comme Blandine, je crois, comme vous, Joseph, on peut s'y résigner en se disant, au fond, le titre unifie, ce qui forme un tout un peu disparate, mais qui va permettre de tracer des lignes de force. Mais tout de même, deuxième effet qui se coule, ces textes ont pour particularité de parler, pour l'essentiel, de l'œuvre d'Yvan Jablonka lui-même. Et là, c'est difficile de ne pas ironiser.
Alors, avant d'ironiser, et je vous laisserai ironiser, moi je voudrais quand même savoir, ce titre de troisième continent, c'est quoi? C'est juste une troisième voie entre ce qu'il appelle la littérature fiction, où le roman représente le principe de plaisir, et la littérature grise, où la recherche savante incarne le principe de vérité? Ça, c'est un peu, est-ce que ces deux polarités, elles vous semblent avoir du sens?
Alors, pas tout à fait, mais je me suis dit à le lire, peut-être, c'était une affaire de génération. Donc, comme Jean-Jacques Blanca insiste pour qu'on situe les choses, je vais les situer. Donc, j'ai 32 ans, je crois qu'il en a 50. Et j'ai l'impression que peut-être hein, que des évidences, ou il y a eu une rupture d'évidence, peut-être. Disons que moi, ça fait 10 ans que je lis et que je critique, que je lis des textes en les analysant. Et c'est vrai que j'ai pas du tout grandi avec l'évidence que le roman romanesque était supérieur aux sciences sociales ou était complètement séparé des sciences sociales. Il me semble au contraire aller assez de soi en fait que leur rencontre est bénéfique et qu'un romancier qui refuserait de s'intéresser à la sociologie, à la politique, aux sciences humaines en général, accuserait quand même une faiblesse. Ça me semble assez évident. Donc ça m'a étonnée qu'il semble dire qu'il faisait là une rupture d'évidence. En fait.
Oui, il dit qu'il veut réconcilier la recherche en sciences sociales et la création littéraire, et on se demande mais où est-ce qu'elles ont été fâchées.
Voilà, c'est-à-dire malgré votre jeune âge, cher
Blandine. Non, mais je me dis que c'est peut-être que c'est récent, quoi,
mais,
en France.
Peut-être, mais quand on lit par exemple, je cite le livre, « Le mépris pour les écrits du réel qui n'accéderaient pas à la dignité littéraire correspond au mépris pour leurs autrices et auteurs dont la parole est jugée indigne d'intérêt, sans valeur, terre à terre. » Bon, dans la mesure où Annie Ernaux a reçu le prix Nobel en 2022, ça donne quand même le sentiment qu'ici, Yvan Jablonka bombe le torse pour défendre une cause qui...
Mais avant Annie Ernaux, c'est vrai que je me suis dit, mais à quel moment a-t-il reçu ce prix Médicis dont il nous... parle pour Laetitia ou La fin des hommes. Et c'est en 2016. En 2016, c'est-à-dire un an après le Nobel qui avait été attribué à Svetlana Alexeïevitch,
oui.
Qui est vraiment l'écrivaine de la littérature du réel.
Oui.
Si on... Donc c'est... Oui, ça m'a étonnée, mais je me suis dit peut-être qu'il part d'un... Non, mais peut-être que quand même quand il était jeune, il se... Voilà, il configurait vraiment le roman comme... comme un continent à part des sciences humaines. Et sans doute que c'est sincère que dans son cas, il y a eu un effort à faire pour que les deux puissent se rejoindre. Et c'est, bon, moi, j'ai plus eu l'impression d'accéder à l'histoire de son effort pour que les deux puissent se rejoindre et de sa propre rupture d'évidence. Ça m'a intéressée en ce sens-là, mais ça me paraissait aller soi, en fait, cette affaire de Troisième Continent.
Alors, il écrit un moment pour faire davantage qu'un jeu qui serait du côté hein, de l'écriture littéraire, et concilier ça avec les sciences sociales, l'idée, c'est de faire de nos histoires de famille, nos autobiographies, nos voix, des collectifs, des voix qui s'insèrent dans des collectifs, genre, classe, politique, génération, institution, qu'elles concernent tout le monde. Est-ce que cette piste qui vise quand même à désamorcer, je dirais, le caractère parfois trop impersonnel des sciences sociales et celui qu'il juge sans doute trop nombriliste d'une forme d'autofiction, vous paraît quand même être une piste, Lise Wagemann?
Mais non, mais c'est pour ça que j'ai envie d'ironiser, parce que c'est quelqu'un dont le travail a compté. Je veux dire, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue, donc pour son travail d'historien, mais aussi l'histoire est une littérature contemporaine pour son travail plus d'essayiste, enfin, mais qu'il écrive aussi en tant qu'historien, sont des textes dans lesquels il plaide pour une écriture de l'histoire en première personne. Ce qu'il reformule ici, par exemple, dans les termes suivants, il ne s'agit pas de s'exhiber, mais de faire en sorte que la subjectivité aiguise le raisonnement au lieu de l'émousser. Et ça... Ça a vraiment marché. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Je dis
oui,
pas marché.
L'histoire des grands parents que je n'ai pas eu, c'était
ça,
vraiment
ça produit,
c'était un moment historiographique assez important.
Et or là, au fond, on a le sentiment que la bascule s'est inversée. Au lieu d'être un discours savant ancré dans une expérience personnelle, on en vient à avoir le sentiment que le propos vient servir l'édification de l'auteur, qu'il construit son propre cénotaphe de papier pour reprendre le titre d'un des textes qui figure dans ce recueil.
Alors, pas tout au long du recueil, quand même. Moi, je dirais que ça commence par ça, mais c'est sans doute un choix de composition maladroit ou inadéquat. Mais ça commence par lui étudiant sa propre œuvre, ou voilà, c'est les recueils, enfin, les textes parlant de ça. Et je trouve quand même qu'à mesure on se déplace, moi par exemple ce qu'il écrit sur Pérec comme chercheur en sciences sociales, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai souligné beaucoup, j'ai appris vraiment des choses. Mais en avançant dans le recueil, par exemple quand il parle des bienveillantes de Jonathan Little, quand il parle de voilà, c'est la manière dont enfin, la fiction et la Shoah, c'est des questions qui ont été très traitées ces dernières années, mais néanmoins je les trouve... articulé de manière intéressante, assez exacte, et sans, en effet, que ce soit encombré par sa propre personne, comme ça l'est un peu au début du recueil.
Bon, à plusieurs reprises, Yvan Jablonka se présente comme, je le cite, « un historien de l'absence qui essaie d'être présent à son siècle et de ce fait ne craint pas de se dire juif, écrivain, féministe ». Bon, C'est, franchement, pas, c'est difficile de lire ça sans ricaner un peu dans son coin, quoi.
Et peut-être un dernier point, c'est que je trouve que, surtout encore une fois dans les premiers textes de ce recueil, Jan Jablonka déconsidère la fiction. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin de déconsidérer la fiction pour mettre en avant la littérature du réel, en fait. Donc je le cite, « Contrairement au romancier, je ne brode pas. Mes lacunes sont patentes, non colmatées grâce aux rustines de la fiction, ou beaucoup plus loin, contre les romanciers qui professent que la liberté de création donne le droit de dire n'importe quoi. Qui ? Quel romancier, enfin, quel romancier estimable qu'on estime, professe que la liberté de création donne le droit de dire n'importe quoi ? Et voilà, je pourrais citer d'autres passages dépréciatifs comme ça. Il me semble quand même que c'est amoindrir ce que c'est que de travailler la fiction. C'est pas inventer n'importe quoi, évidemment que non, mais c'est transposer dans la fiction des questions que la vie, que le monde, que le réel, donc, dans lequel on est nécessairement pris quand on écrit, quand on pense, quand on écrit, quand on imagine, nous pose. Et donc, à mon sens, c'est radicaliser des questions que le réel nous pose, la fiction. C'est pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et il m'a semblé que la fiction n'avait pas besoin d'être méprisée pour défendre ce que, par ailleurs, je souhaite vraiment qu'on défende et qu'on prenne au sérieux aussi la littérature du réel.
Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange de vouloir réconcilier la fiction et les sciences sociales en dévalorisant la fiction d'emblée, enfin, ou en ayant en tout cas une image ultra convenue et assez enfantine.
Oui, inversement, juste du point de vue opposé, quand on lit une déclaration comme voilà, une nouvelle définition des sciences sociales, des écrits qui disent la vérité et changent le monde, on peut se dire aussi que cette définition des sciences sociales, elle est un peu courte, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité ? C'est quoi la vérité ? C'est quoi du vrai, quoi ? Et ça, c'est bon, c'est pas des questions qui sont vraiment articulées dans cet ensemble.
Le troisième continent ou la littérature du réel, c'est publié aux éditions du Seuil et signé Yvan Jablonka. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beune.